Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons parler de la production, début de production dans la zone économique spéciale de Maluku. Comment ça se passe là-bas? Comme invité, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, qui sera tout à l'heure en ligne. On me fait signe qu'il est déjà là. Monsieur le ministre, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio au Capi à travers le monde.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radioocapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde au micro. Jody Daniel Keshama, excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien.
Radio Capi lance un nouveau programme à partir du vendredi 1er septembre. Les faits sont sacrés, c'est votre programme qui vous permet de faire la différence entre les fake news et la bonne information. Un rendez-vous à ne pas manquer, tous les mardis à 11h50 et en rediffusion dimanche à 19h50 sur la radio de la paix. Radio Capi, pour une information au service du développement.
Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
La production industrielle dans la zone économique spéciale de Maluku à Kinshasa a déjà démarré. Le 2 septembre dernier, une entreprise chinoise a présenté sa première production des carreaux et faïences made in Congo. Ceci est un avant-goût de la relance effective de l'industrie congolaise, tel qu'elle a dit. On l'avait dit le ministre de l'Industrie, on aura de plus en plus de produits finis au label Made in Congo, répondant aux normes et standards internationaux sur le marché, tant intérieur qu'étranger. Très bientôt, d'autres entreprises vont produire des boissons gazeuses, des savons et margarines, mayonnaise, purée de tomates et autres produits alimentaires. Pour en savoir plus, nous recevons le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia. Monsieur le ministre, ravi de vous avoir dans cette émission Capi Service. Alors, comment on peut dire, la première question est de savoir comment ça se passe au niveau de la zone économique de Maluku par rapport à la production. Est-ce qu'on peut dire que cette production des carreaux et faïences est faite en grande quantité et ça peut couvrir les besoins en construction dans la ville de Kinshasa et à travers le pays?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord commencer par saluer toute l'équipe de Radio Capi, mais également tous les auditeurs, et dire que vous avez été témoin lorsque le 2 septembre dernier, son Excellence, monsieur le Président de la République, est arrivé lui-même à Maluku pour lancer effectivement la production dans cette zone pilote qui est créée depuis 2012, mais qui est opérationnelle effectivement 11 ans après, c'est-à-dire en 2023, avec cette première production. Alors, répondant à votre question, je voudrais tout de suite apaiser l'ensemble de la population congolaise pour dire que cette usine de production des carreaux et des faïences qui se trouve à Maluku a une capacité installée de 50 000 mètres carrés de carreaux et faïences par jour. Ça veut dire, ça couvre tout de suite la demande de la ville de Kinshasa, la demande de la RDC avec potentiellement un surplus qui sera exporté, ce qui permettrait à la République de gagner en devise. Donc c'est une unité industrielle qui vient répondre à un besoin croissant des matériaux de construction, aussi bien dans la capitale Kinshasa que sur le reste de la République démocratique du Congo.
Bien, donc on peut comprendre par là que les importations des faïences, des carreaux de Dubaï, de la Chine vont sensiblement baisser.
C'est exactement ça la vision du gouvernement, c'est de réduire sensiblement la facture des importations. Lorsque vous voyez toutes les maisons qui sont construites sur l'ensemble du territoire national et que vous évaluez cela en termes de dollars, eh bien c'est des millions et des millions de dollars qui sortent de la RDC pour aller enrichir les autres, pour aller créer de l'emploi ailleurs, pour aller stabiliser la monnaie ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ce vaste programme des économies sociales a été pensé au niveau du ministère de l'Industrie pour dire non, finalement, à des importations qui nous coûtent très cher à l'économie congolaise. Et donc, dans une politique de substitution des importations, eh bien, nous avons imaginé ce nouveau modèle économique comme vision de ce gouvernement, de manière à permettre à ce que, finalement, les dollars à millions que nous sortons chaque année restent sur le sol congolais, nous aident à créer des richesses au Congo, nous aident à créer de l'emploi. Comme on l'a si bien indiqué le 2 septembre dernier, le seul projet ici de production de carreaux va à lui-même donner près de 6000 emplois directs à des Congolais. Alors que lorsque nous allons acheter des carreaux à Dubaï, en Chine et ailleurs, ce sont ces 6000 emplois chinois ou des Émiratis qu'on crée là chez eux. Donc c'est un projet qui mérite tout l'accompagnement, toute l'attention de la population, parce que ceux qui en sont bénéficiaires, ce sont les Congolais. Et je réaffirme ici que la capacité installée de cette usine est de 50 000 mètres carrés par jour qui sortent de l'usine de Saphir à Kinshasa, c'est qui couvre toute la demande de la ville et donc au-delà. Demain, ça sera l'exportation vers le Congo-Brazzaville, vers l'Angola, vers la Zambie, vers tous les pays qui nous entourent, parce que comme je l'ai dit dans mon mot, la RDC a pour ambition de devenir réellement cette gâchette au centre de l'Afrique pour déclencher le boom économique en Afrique.
Bien. Alors, après cette production, bon, sûrement, il faut penser maintenant à mettre en place un réseau de distribution à travers le pays.
Oui, exactement. Ce qui sera fait, c'est que ce n'est pas l'entreprise chinoise qui va commencer à distribuer les carreaux et les faïences à travers les pays. La loi sur la sous-traitance admet effectivement que ce soit des Congolais qui prennent ce genre de responsabilités. Et donc, l'objectif, c'est aussi de créer des millionnaires congolais. Les gens qui ont la capacité d'aller acheter la production à l'usine et de créer un réseau de distribution. Comme nous avons un boulevard très important, naturel, que Dieu nous a donné, qui est le fleuve Congo, eh bien, à partir de Maluku, la production peut remonter vers l'Équateur, vers Kisangani, et être distribuée partout à travers la République. Comme nous avons bientôt le chemin de fer qui sera réhabilité entre Kinshasa et Matadi, eh bien, il sera possible d'amener la production jusqu'à Matadi et prendre la voie du bateau vers les exportations. Donc, tout ça, ce sont les Congolais maintenant qui doivent prendre à bras le corps. Nous, comme gouvernement, nous avons créé cet écosystème pour permettre en fait aux Congolais de pouvoir s'y greffer maintenant, à ceux qui ont les moyens de contacter cette entreprise pour se faire de la richesse. Les gens vont devenir des millionnaires comme ça, et puis on va commencer à dire, bon, on ne comprend pas comment tel ou tel autre sont devenus des millionnaires. C'est le moment pour ceux qui ont des capitaux de s'adresser à l'entreprise Saphir pour devenir des distributeurs congolais sur les axes que je viens d'indiquer et ici gagner un million. On a souvent commercé avec la Chine, on a souvent commercé avec Dubaï, on a souvent commercé avec d'autres. Voici que le gouvernement donne maintenant l'occasion aux Congolais de commercer avec un entrepreneur qui se trouve sur le sol congolais, qui donne de l'emploi aux Congolais, qui crée des richesses aux Congolais, qui paye des taxes aux Congolais, et donc qui permet à notre économie d'être soutenue et de stabiliser ainsi petit à petit notre monnaie. Ça, ce n'est qu'une entreprise. Il y a d'autres qui s'y installent, et je crois que dans les 5 années à venir, je crois que la RDC va être ce grand pays tant rêvé par le père de l'indépendance, aujourd'hui matérialisé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi.
Bien, on a annoncé aussi prochainement les débuts de production de boissons gazeuses avec Pepsi.
Oui, exactement. Comme cela a été indiqué le samedi dernier, il y a déjà 5 entreprises qui sont là. La première, c'est Céramique, celle qui produit déjà les carreaux. La deuxième, ça s'appelle Varun Beverage. C'est une filiale de Pepsi qui a déjà commencé ses constructions dans la zone. Et les premières productions, selon les prévisions que nous avons au niveau du ministère, les premières productions de produits Pepsi sortent au mois de mai 2024. Avec potentiellement la création de près de 5000 emplois directs et près de 15 à 20 000 emplois indirects. J'ai eu à vivre cette expérience au Zimbabwe lorsque je suis allé participer à l'inauguration de la première usine avant que je ne les convie à venir à Kinshasa. C'était dans une mission de due diligence pour aller voir exactement quel est l'impact économique et social que ce projet a sur le Zimbabwe. Et donc, au regard des convictions que j'ai eues à Harare, lorsque j'ai participé à cette inauguration, eh bien, j'ai dû solliciter qu'ils viennent s'installer également en RDC. Et donc, c'est un projet dont nous attendons la production au mois de mai 2024. Mmh. Le troisième projet, ça s'appelle Tika Timber. Il va, lui, nous aider à transformer les bois congolais. Comme je n'ai cessé de le dire, le ministère de l'Environnement a fait adopter au gouvernement une décision d'interdiction d'exportation de grumes, mais à côté de cette interdiction, on n'avait pas encore trouvé la solution de substitution. Maintenant, dans la zone économique spéciale de Maluku et de Kinmalebo d'ailleurs, qui est à côté de Maluku, et la prochaine zone qui sera créée en Bandaka à l'Équateur, eh bien, nous avons notre bois pour cesser d'importer qui table, qui armoire, qui lit, qui fenêtre, qui... Tout ce qui est fait par le bois le sera ici dans la zone de Maluku. La troisième entreprise va nous aider à fabriquer les papiers avec les déchets du bois et également les cahiers pour que nos élèves, tous nos utilisateurs de cahiers, de papiers, de rames cessent d'aller enrichir les autres, mais désormais que ça soit ici en République démocratique du Congo. Et donc, je crois que nous sommes sur la voie de la réindustrialisation du pays pour que nous ressemblions à ce que la RDC était il y a 60 ans, parce qu'en 1960, nous avions près de 9600 entreprises industrielles. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à près des milliers, après que nous ayons relancé ce secteur, parce que en 2019, lorsque nous avons accédé à ce ministère, on avait 500 unités industrielles, mais maintenant, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers 825. Et nous pensons que d'ici l'année prochaine, on sera à près de 1000, et dans les 5-10 ans, on pourrait être à 10 000, 15 000, 20 000 entreprises industrielles et ainsi être parmi les puissances industrielles de l'Afrique pour que nous puissions suivre la trajectoire de la Chine qui, en 40 ans, est devenue la deuxième puissance mondiale, ce qui n'est pas exclu pour la RDC d'ici 10 à 15 ans.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Emmanuel Bouchabou nous appelle de Mweka. Emmanuel, bonjour. Emmanuel, vous êtes à Mweka, bonjour. Emmanuel, vous m'entendez?
Allô, Jidi, bonjour Jidi.
Bonjour, c'est Jidi. Bonjour Emmanuel. Quelle est votre question? Quelle est la question que vous adressez au ministre de l'Industrie?
Non, moi, c'est Stéphane Bouchabou de Mweka. Stéphane Bouchabou.
Oui, quelle est votre question, Stéphane?
Oui, merci beaucoup, M. Jidi. Demandez à l'invité, M. le ministre Julien Paluku, quand est-ce que l'usine de Dentiodi va arriver à RDC?
Quand est-ce que... Allez-y, oui.
Dentiodi va arriver à RDC. Quand est-ce que l'usine de Dentiodi...
D'accord, usine de poissons chinchards appelée communément Dentiodi, quand est-ce que ça va... D'accord, merci pour la question. Et, Jean-Pierre, vous êtes aussi à Mweka, bonjour.
Bonjour, monsieur, bonjour, monsieur le ministre, Julien Paluku.
On vous écoute.
Oui, je voulais d'abord commencer par remercier la volonté et l'engagement du président de la République. C'est quelque chose qui ne se faisait pas maintenant, nous commençons à voir qui marche, je vais aller. Et pour débuter, je voulais faire une indignation envers le président de la République ou envers le ministre, mais c'est une question que je me suis posée pour que je trouve la question, comme c'est l'occasion de le ministre sur place. Pourquoi à chaque fois qu'il y a toujours des investigations. Il n'y a que des étrangers qui viennent. Est-ce qu'il n'y a pas des Congolais qui sont doués en République démocratique du Congo ou ailleurs? Parce que nous avons des réseaux sociaux, les réseaux sont des véhicules, des informations, nous informons parfois. Nous entendons que tel Congolais fait ceci ou cela en Amérique ou en Europe ou en Asie. Mais comment ces gens qui font déjà des choses, des pays déjà développés, ne viennent pas les faire du Congo? Pourquoi on les intéresse pas aussi?
Voilà, vous voulez savoir pourquoi il n'y a que les investisseurs étrangers qui viennent, qui apportent des capitaux, qui investissent ici, et pourquoi pas les Congolais, les nationaux peuvent aussi emboîter le pas. C'est ça votre question?
Effectivement, c'est que je veux savoir. Et aussi, hier, dans le régime du président Joseph Kabila, on nous disait que il avait aussi de bonnes initiatives, mais c'était son entourage qui ne l'avait pas bien aidé.
Bien, merci. Est-ce Jean-Pierre. Merci.
Présent.
Oui.
Oui, je disais.
D'accord, merci. Allô? Merci, on a retenu votre question. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi la question de Monsieur Emmanuel qui dit, mais à quand l'usine aussi des Mpiodi ou des poissons chinchards?
Oui.
Et je voudrais lui dire tout de suite que au niveau du ministère de la Pêche et Élevage, un dossier a été présenté en Conseil des ministres pour l'achat de 5 bateaux de pêche industrielle dont le financement sera assuré totalement par la RDC avec des partenaires qui sont spécialisés dans ce secteur. Et donc je crois que la question est déjà prise en charge par le gouvernement. Mais comme vous le savez, les compétences étant d'attribution, eh bien, c'est une question qui est traitée au niveau du ministère de la Pêche et de l'Élevage. Mais le volet industriel nous intéresse effectivement. Voilà pourquoi je l'évoque, parce que j'ai été témoin de sa présentation en Conseil des ministres. S'agissant de la question de Jean-Pierre de Mweka, pour dire, eh bien, nous parlons souvent des étrangers. Effectivement, c'est, je l'ai dit dans une émission, que les zones économiques spéciales, que nous avons l'ambition de disséminé à travers la République ne concerne pas que les capitaux étrangers. Ça concerne tout le monde, les Congolais en priorité. La sensibilisation que nous faisons maintenant à travers la radio Okapi, c'est d'interpeller effectivement les patronats congolais pour dire nous nous sommes beaucoup plus investis dans les commerces. On commerce avec la Chine, on commerce avec Dubaï, on commerce avec tous les pays, l'Europe, les États-Unis, c'est bien bon. Mais nous aurions voulu que les patronats congolais s'investissent ou s'invitent également à un projet d'investissement à long terme. Il est vrai que la culture de certaines personnes, c'est de chercher à avoir leur argent chaque soir, chaque matin, midi. J'ai revu mes 1000 dollars, mes 5 000, mes 10 000 dollars. Au moins, je me rassure que je garde mon capital. Mais ça, ce n'est pas durable. Ce qui est durable, c'est ce genre de projet comme ceux qui s'installent aujourd'hui dans les zones économiques spéciales. Donc, à travers la question de Jean-Pierre de Mweka, c'est une interpellation à notre patronat congolais de s'intéresser désormais aux investissements à long terme. C'est cela qui est durable, c'est cela qui est pérenne, c'est cela qui crée des richesses, c'est cela qui crée de l'emploi. Sinon, le commerce en lui seul ne développe pas un pays, mais il développe plutôt les autres. Je crois que c'était une bonne question qui m'a permis effectivement de m'adresser au patronat congolais dont nous attendons les acteurs dans toutes les zones qui sont à chantier, aussi bien à Kinshasa, à Moussiné, au Nord Kivu, à Mbandaka, à l'Équateur, au Katanga, comme à Lualaba ou à Lubumbashi, demain à Kalamambouji dans l'espace Kasai, après demain à Kisangani dans la Tchopo, après à Bunia dans l'Ituri. Tous ces espaces-là, ou à Nyangezi au sud Kivu, tous ces espaces-là, on va y voir développer des zones économiques spéciales pour désormais transformer localement nos produits et cesser d'importer même les cure-dents, cesser d'importer les piments, cesser d'importer les gens de Goma ou de Butembo me suivent. Ils savent d'où on importe même les petits piments que nous devons produire chez nous. Donc toutes ces zones qui seront disséminées là vont nous aider effectivement à réduire sensiblement ces petites importations dont nous avons la capacité de production sur le sol congolais. Et donc, que les patronats congolais s'y intéressent, c'est vraiment un appel vibrant que nous lui faisons parce que c'est des partenaires du gouvernement sur qui nous comptons pour le développement de ces pays.
Bien, monsieur le ministre, qu'en est-il de, par exemple, du projet de fabrication des batteries de véhicules électriques dans les Katanga?
Oui, comme vous avez suivi tout à l'heure, lorsque j'introduisais en disant que le projet des zones, de la zone de Maluku a commencé en 2012 avec le décret de sa création. Le plan a été voté en 2014. Le décret qui fixait les avantages a été approuvé par le gouvernement en 2020. Et c'est en 2023 que nous faisons la production. Voilà l'exemple d'une trajectoire d'un projet, un cycle d'un projet. Celui des batteries électriques, comme vous le savez, nous sommes sur l'étude de préfaisabilité qui est en train d'être menée par la société Arise dans l'espace Katanga pour nous déterminer les lieux exacts de là où doit se développer ces grands projets, parce que les conditions pour que les investisseurs mettent les moyens, c'est d'abord l'accessibilité aux matières premières. Vous savez que les projets de batterie demandent 1. La disponibilité du cobalt, 2. La disponibilité du lithium, 3. La disponibilité du manganèse, 4. La disponibilité du nickel. Et donc c'est en fonction des études qui sont en train d'être faites que finalement nous allons retenir les lieux qui vont accueillir ces projets-là et les présenter devant les bailleurs qui sont intéressés aux Congolais comme étrangers pour devoir commencer. Donc les jours qui viennent sont aussi révélateurs de beaucoup de choses par rapport au ministère de l'Industrie qui vraiment voudrait être les champions de la transformation et de nos produits agricoles et de nos produits miniers, parce que nous avons trouvé que le secteur minier, depuis 60 ans, n'a pas été le levier pour le développement de la RDC. Et donc aujourd'hui, le président Tshisekedi a estimé que, comme le secteur minier n'a pas été le levier du développement, eh bien, il faut passer à la transformation locale pour donner une valeur ajoutée à tous nos produits, parce qu'actuellement, nous ne captons moins que 3% de la valeur marchande de ce qui sort du sol congolais, ce qui est inacceptable. On ne peut pas vendre pour autant de milliards de dollars nos minéraux à l'extérieur et ne capter en retour que 3% de cela. Ça fait que 97% enrichissent d'autres pays alors que nous, nous crépissons dans la misère depuis des années et des années. Donc c'est le changement de paradigme, c'est le changement de modèle économique et le ministère de l'Industrie est l'acteur majeur dans la définition du nouveau modèle économique de la RDC, tel que je l'ai dit tout à l'heure.
Bien. Monsieur Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour Jody et bonjour à son excellence.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, tout premièrement, je veux remercier son excellence par ses innovations et surtout le gouvernement et surtout le chef du pouvoir, Fatou Beto, de nous avoir ouvert vraiment dans ce monde industriel. Bon, ce que je veux demander à l'excellence, oui, c'est une félicitation, c'est déjà, l'usine commence à produire les carreaux, on a suivi ça, mais nous de Bandundouville, moi je suis de Bandundouville, nous sommes là, le courant Inga traîne là-bas. Et comme il vient de dire qu'il veut faire vraiment une production locale de nos propres produits. Nous sommes à vocation agricole. Lui-même, il connaît. Tous nos produits agricoles, en tout cas, ceux qui bénéficient de ça, c'est des Congo-Brazzaville. Ils viennent des Kwilu entiers, des Kassai, tout ça, via nos fleuves et rivières, Kwilu, Kwango, Kassai, et puis fleuve Congo, en traversant directement au Congo-Brazzaville. Est-ce que le ministre... Il ne peut pas aussi ouvrir une zone économique là chez nous à Bandundouville, puisqu'il y a vraiment des espaces aussi qu'on peut produire localement. Même nos poissons, il y a des pêcheurs là-bas. Des produits agricoles, on n'en parle pas. Nous aussi, nous avons l'électricité. Vous savez, l'électricité, c'est ce qui est à la base de faire fonctionner les industries. Mais nous traînons comme ça. Mais l'espoir est que nous, les Kwilois, en général, et Bandundouville, en privé, nous entendons aussi ces projets de son excellence pour que nous soyons aussi les producteurs locaux, en fait que et les Angolais, et les Zambiens, et les Congolais de Brazzaville commencent à venir aussi pour prendre vraiment, pour acheter des choses et puis faire hausser aussi notre valeur dans le monde économique. En tout cas, merci. C'est ça, merci. La plaidoirie que j'ai fait auprès de son Excellence. Merci beaucoup.
Bien, merci Monsieur Malonga de Bandundouville. Monsieur le ministre, à vous la parole.
Oui, je voudrais remercier Monsieur Malonga de Bandundu, que je salue avec toute la population de cet espace, bien évidemment, et lui dire que le gouvernement est sur un projet important de la centrale de, je crois, Kakobola, si j'ai bonne mémoire, le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité l'a présenté dernièrement et la première production d'électricité est déjà faite. Je crois que la population de cet espace n'attend que le président de la République pour aller lancer officiellement l'électrification de tout l'espace Bandundu. Deux, je voudrais rassurer que Bandundu est dans les viseurs du gouvernement. Pas plus tard qu'il y a quelques temps, nous avions adopté en Conseil des ministres le projet Krisnovich-Avanga, c'est dans le territoire de Bulungu, et ce projet va transformer l'huile de palme en huile palmiste, en huile raffinée, en biodiesel. C'est la première fois que nous aurons du biodiesel en République démocratique du Congo. Et le projet est fini à Vanga. Eh bien, nous n'attendons que le programme du président de la République pour aller lancer l'inauguration de ce vaste projet qui va permettre de ramasser toutes les productions agricoles de l'espace Bandundu, les traiter dans l'usine Krisnovich à Vanga à Bulungu et ainsi combler les marchés de Kinshasa particulièrement, parce que vous savez que Massavco, qui est la plus grande usine de fabrication de margarine, de savon, etc., importe encore l'huile de palme de Malaisie. Et donc, c'est inacceptable alors que nous avons des palmiers aussi bien dans l'espace Bandundu que dans l'Équateur, où également nous développons la zone de Miluna à Bouaka. Hein? Et donc, nous allons actionner et Miluna dans le Sud-Ubangi, et Vanga dans les territoires de Bulungu, dans l'espace Bandundu, pour nous permettre de combler les déficits qui souvent fait l'objet d'importation de l'huile de palme à partir de la Malaisie, à des milliers et des milliers de kilomètres. Mais la demande qui vient d'être formulée, c'est celle de l'aménagement d'une zone économique spéciale dans cet espace. Eh bien, je la retourne aux opérateurs économiques congolais, particulièrement ceux de l'espace Bandundu, parce que le développement d'une zone économique spéciale demande qu'il y ait un acteur qu'on appelle aménageur, qu'on appelle développeur. Alors, tout le monde s'intéresse aujourd'hui à la politique. Tous les acteurs, de Bandundu particulièrement, parce que c'est de là qu'il s'agit, tous ont déposé chacun 300 candidats à la députation nationale, autant de candidats à la députation provinciale, autant de candidats au niveau municipal. Lorsque vous calculez le nombre de dollars qui ont été utilisés pour déposer les 23 000 candidatures sur l'ensemble de la République nationale, disons de la République, c'est des millions et des millions d'argent. Et donc, cet exercice auquel les ministères de l'Industrie, le président de la République, les premiers ministres soumettent le peuple congolais, cet exercice est à la fois une interpellation aux acteurs politiques pour nous dire, nous dépensons des millions et des millions dans des questions politiques, dans des questions de candidature, au point où nous battons les records en Afrique d'avoir 28 000 candidatures pour 500 postes. Alors que ces moyens-là, on peut bien les injecter dans l'économie congolaise et avoir sa vie au lieu de penser que ne peut avoir la vie que celui qui devient député national, provincial ou communal. Donc je crois que la question de M. Manonga interpelle les politiques congolais pour dire commençons aussi à nous intéresser à l'investissement, à l'industrie, aux activités économiques. Nous avons 1000 partis aujourd'hui. Je crois que cela nous interpelle en disant, est-ce que de la même manière, pouvons-nous demander aux acteurs politiques chacun d'avoir une activité économique, industrielle? Si nous avons 1000 partis et que de la même manière nous réfléchissons à l'économie, eh bien nous pouvons avoir 1000 unités industrielles qui sont pilotés par chacun de ces chefs des partis politiques qu'on appelle ici autorité morale, là-bas président, là-bas X et Y. Je crois que si on change ce paradigme-là à travers le ministère de l'Industrie qui interpelle et le patronat congolais et la classe politique congolaise, eh bien, on peut aussi commencer à ressembler aux autres pays où ce n'est pas seulement la politique qui constitue le facteur d'attraction de tout un peuple.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du début de production dans la zone économique spéciale de Maluku, ici à Kinshasa. Ingénieur John, vous êtes à Kindu, Godé à Kikwit. Godé, voilà. Ingénieur John à Kindu et Godé à Kikwit. Ingénieur John, bonjour.
Bonjour, JR.
Non, c'est jeudi. Bonjour à c'est jeudi. Quelle est votre question?
Ah oui, jeudi, bonjour.
Bonjour.
En tout cas, je salue ton excellence, monsieur le ministre Julien Paluku, que j'estime beaucoup. J'ai vraiment de l'estime envers cet homme d'État. Pourquoi? Puisqu'il s'occupe des aspects de développement. Et moi, je suis à côté de lui. Hein. Il est TDR, mais moi, je suis ingénieur agronome. Nous pouvons former une équipe très forte pour booster l'économie de notre pays et changer le paradigme. Voilà. Mon inquiétude se situe à un certain niveau. Moi, j'ai inventé un produit, la biofood, qui est un mélange de céréales et de légumineuses. Et au niveau du ministère de la recherche scientifique, au conclave des innovateurs, j'avais été présélectionné par la structure qui travaillait en collaboration avec le ministère de la recherche scientifique. Mais malheureusement, arrivé au moment où on devrait envoyer les invitations et les billets, le billet de Kindu n'est pas venu. Pourquoi Kindu est toujours marginalisé? Pourquoi le Maniema est toujours marginalisé? Alors que le produit que j'ai inventé, il est 2 fois plus puissant que Masoso d'Ouganda.
Bon,
3 fois plus puissant.
D'accord.
3 fois plus puissant,
oui.
Que... 3 fois
ingénieur,
plus puissant que... Mais c'est
ingénieur John.
6 fois plus puissant. Oui.
Oui, alors quelle est la question? Allez-y droit au but, on a compris. Mais quelle est la question que vous adressez, voilà, au ministre rapidement? Vous n'avez
la
pas beaucoup de temps.
La question que je pose, la province du Maniema, elle est dans quelle zone économique et à quel moment est-ce que cette zone économique sera opérationnelle?
D'accord, merci beaucoup. On va donner la parole à Godé de Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jedi Kachama, et bonjour à notre honorable qui a vraiment initié cette initiative qui était déjà enterrée depuis longtemps. Vraiment, nous ici, à Grabandundu, précisément, depuis longtemps que nous connaissons les usines, et les usines de Pelset, c'était limité à l'époque belge. Jusqu'à là, nous ne pouvons même pas les usines. Cette initiative, vraiment, j'ai apprécié cela à 90%. Vraiment, mon préoccupation est celle-ci. Vous voyez, monsieur le ministre, le problème c'est quoi ici au Congo? Nous produisons, mais le problème qui va nous rendre difficile, c'est quoi? Les prix. Il faut que le prix de ces produits-là doit être abordable au peuple congolais par rapport aux étrangers. C'est bien, mais les prix, vous voyez dans des magasins ici, on voit des carreaux en dollars. Comme nous ne sommes pas les bénéficiaires, les propres de cette... Il faut qu'on nous voit en franc congolais, à un moyen un peu rabaissable. On peut construire des maisons à notre produit-là, à des carreaux, c'est bien. Mais quand même, vous êtes arrêté à la capitale. Quand même, il faut plonger dans des grandes villes du Congo. Par exemple, à Kikwit. Et si nous avons aussi nos usines, gagnez pas. Il faut quand même prolonger le service, pas monsieur le ministre à Kinshasa. Il faut créer des petites usines, des carreaux.
Bien. Merci beaucoup, monsieur Godé de Kikwit. On a compris. Monsieur le ministre, à vous la parole.
Merci. Je voudrais d'abord saluer les deux intervenants, l'ingénieur John de Kindu et monsieur Godé, qui a vraiment la passion, on sent qu'il a la passion du Congo, comme moi-même, j'en remercie autant que l'ingénieur John. Donc je voudrais rassurer l'ingénieur John que j'ai noté effectivement qu'il a inventé un mélange céréales plus légumineuses, qu'il était invité au conclave qui était organisé par le ministère de la recherche scientifique. Je peux aujourd'hui lui dire que je dis qu'il fait cette émission pour lui donner mon numéro, pour que peut-être j'assure la prise en charge pour qu'il vienne à Kinshasa. Nous avons besoin des inventaires congolais et je pourrais lui présenter auprès du ministre des Affaires scientifiques pour que finalement il présente son innovation. Donc, j'ai pas la responsabilité comme ministère de l'Industrie de pouvoir faire cela. Alors, maintenant, par rapport à Maniema, je vais faire la même réflexion comme celle que j'ai faite pour les Bandundu. Eh bien, la création des zones économiques spéciales demande qu'il y ait des porteurs de projets qu'on appelle aménageurs ou développeurs. Donc là aussi, les opérateurs économiques ou la classe politique de l'espace Maniema est interpellée. On les attend parler à longueur de journée sur des questions politiques, mais moi je voudrais les attendre aussi parler sur ce genre de questions économiques par rapport au développement du Maniema. Et le ministère de l'Industrie est prêt à recevoir leur dossier et accorder le statut de zone économique spéciale à tout opérateur de l'espace Maniema qui voudra bien présenter ce projet des zones économiques spéciales. Parce qu'en fait, cette trajectoire des zones économiques spéciales a été suivie par la Chine et tout le monde a compris tout de suite que la Chine est devenue l'usine du monde à partir des zones économiques spéciales. Et donc, c'est cette même trajectoire qu'on est en train de suivre. Bien évidemment, les gens me posent des questions, mais vous êtes sur le chantier des zones économiques spéciales. Est-ce que vous êtes certain que partout il y a l'électricité pour que nous puissions alimenter les unités industrielles qui naîtront dans ces zones? Et j'ai toujours répondu clairement que le manque d'électricité est aussi une opportunité d'investissement. On ne peut pas considérer que le manque d'investissement est un problème. Non, c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire, là où se développe une zone, on a besoin également de notre investisseur qui développe le secteur d'électricité pour alimenter la zone. Donc ce sont des projets qui se tiennent et donc on ne peut pas continuellement dire que parce qu'on n'a pas l'électricité, on ne peut pas réfléchir au développement. Non, pour moi, les deux sont des opportunités à saisir par les investisseurs. Alors, s'agissant de M. Godet de Kikwit, bien, nous sommes sur le projet PLZ, l'ancienne PLZ. Ce sont des plantations qui étaient tenues à l'époque avec les collègues de l'agriculture. Il est prévu ce qu'on appelle le cadastre agricole que le gouvernement est en train de piloter, c'est-à-dire à l'instar du cadastre minier qui a la cartographie de tous les carrés miniers à travers la République, notre gouvernement va mettre en place ce qu'on appelle le cadastre agricole. Pourquoi? Parce qu'on dit que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, mais si on demande à chacun d'aller nous montrer là où il y a ces 80 millions d'hectares de terres arables, je ne sais pas si on peut les trouver tout de suite. Alors, avec le cadastre agricole qui est en chantier au niveau du gouvernement, nous allons répertorier exactement quelles sont les terres disponibles, les anciennes plantations qu'il faut relancer pour voir comment on peut les attribuer à des Congolais qui ont la capacité de devoir les utiliser ou à des partenaires extérieurs qui voudraient bien respecter les lois congolaises pour que, finalement, nous puissions redevenir ces greniers agricoles et de l'agro-industrie au cœur de l'Afrique. Il y a la loi sur l'agriculture qui traîne encore à l'Assemblée nationale à cause d'un article, l'article 16. Nous pensons que les honorables députés qui suivent cette émission feront diligence pour que la loi sur l'agriculture sorte de l'Assemblée nationale, qu'on déverrouille cet article 16 et qu'on nous permette finalement d'entrer dans la phase à la fois de la relance agricole, mais également de la transformation de nos produits agricoles pour qu'on leur donne une valeur ajoutée et qu'on devienne des exportateurs. Parce que vous savez, un pays comme la Chine, c'est un marché de 400 millions de consommateurs directs. Aujourd'hui, les États-Unis, ils ont ouvert leur espace aux exportations qui viennent de l'Afrique subsaharienne à travers la loi qu'on appelle AGOA. Toutes ces opportunités-là, nous, la RDC, on se prépare à travers le ministère de l'Industrie pour devoir les saisir, pour qu'on gagne les marchés chinois, pour qu'on gagne les marchés américains, pour qu'on gagne les marchés africains, qui est de 1 milliard 300 millions de consommateurs. C'est ça la population africaine. Et avec la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine qu'on appelle la ZLECAF, qui ouvre les frontières de tous les pays africains, eh bien, si la RDC n'a pas une politique industrielle agressive, nous allons devenir le déversoir de tout le monde, parce que tout le monde nous considère comme un marché, étant donné que nous avons 100 millions d'habitants, mais au contraire, ce que nous faisons au niveau de l'industrie, c'est de renverser la tendance et de considérer plutôt les autres comme notre marché. Et c'est ça le sens de tout ce que nous sommes en train de mettre en place comme politique industrielle au niveau de la RDC.
Bien, nous parlons de, du début de production dans la zone économique spéciale de Maluku, comment ça se passe là-bas et dans les autres zones économiques. Merci pour tout, pour les appels et les messages. Et nous allons accueillir d'autres auditeurs dans quelques instants. Vous voulez participer? Le standard est déjà ouvert. Composez les 081-890-63-94.
Festival 100 voix pour la paix. Ensemble, faisons vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iossi à Goma, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Okapi. Début de production dans la zone économique spéciale de Maluku, ici à Kinshasa. Nous avons Laurent Mignon en ligne depuis Kin. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Laurent. Laurent, vous êtes en train de causer avec quelqu'un d'autre. Vous êtes déjà en ligne. Bonjour.
Bonjour, Jordi. Voilà. Je salue au chef d'initiative Salvatore qui veut pas contrôler. C'est-à-dire la zone économique qui est dans la commune de Maluku. Je pense au regard de l'histoire et de la géographie de la commune de Maluku, une commune pauvre, et même de la ville.
Bon, si vous êtes à côté de votre radio, Laurent, 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 la communication n'est pas très bonne. Apparemment, vous êtes à côté de votre radio. Veuillez vous en éloigner, s'il vous plaît. Et vous allez suivre à partir de votre téléphone parce que là, on, c'est pas agréable. C'est fait.
Je pense qu'on regarde l'histoire et la géographie de la commune de Maluku. C'est une commune pauvre et éloignée de la rue. Je suis convaincu que c'est bon de réserver les feux de chemin dans cette commune.
Laurent, on ne vous capte pas bien. Désolé, on ne sait pas poursuivre dans ces conditions. Peut-être que vous pouvez vous déplacer et la qualité de la communication peut s'améliorer. Mais on ne sait pas continuer dans cette condition-là. Désolé. Alors, je reviens à vous, Monsieur le ministre Julien Paluku Kaungia. Déjà, la production a commencé dans la zone spéciale économique de Maluku avec la production des carreaux et des faïences. Et alors, pour les autres investisseurs, on peut s'attendre, quand est-ce qu'ils vont commencer également à produire? Faut-il attendre encore 5 ans ou 10 ans?
Non, moi je pense que de la même manière que Safir a commencé la production des carreaux, d'autres aussi vont suivre. Mais ce que je tiens à souligner par rapport à ce vaste projet de carreaux et de faïences, c'est que l'impact que ça va avoir sur la population de la RDC, sur la population de Kinshasa, cet impact est grand. D'abord, par le fait que lorsqu'on va atteindre le plein régime de fonctionnement de la zone économique spéciale de Maluku, il y aura entre 12 et 20 000 emplois directs à l'intérieur. Et donc, petit à petit, on va voir la population de Kinshasa se déplacer vers Maluku. Parce que, comme vous le savez, la ville de Kinshasa a près de 9000 kilomètres carrés, mais seulement 20% de ces 9000 kilomètres carrés sont habités. C'est-à-dire que 70% ne sont pas habités, dont la commune de Maluku. Et donc, la zone économique spéciale qui a été pensée dans cet endroit a pour aussi ambition d'organiser petit à petit le glissement de la population vers cet espace et ainsi inviter l'engorgement de la ville de Kinshasa avec tous ces embouteillages que vous avez. Donc, c'est un projet qui a un impact important aussi bien sur le plan social, sur le plan environnemental que sur le plan économique. Maintenant, comme vous l'avez dit, les autres entreprises, j'ai cité ici Pepsi, j'ai cité ici Tika Timber pour la production du bois et les autres pour les cahiers, etc. Eh bien, le processus d'installation dans la zone est en train de se passer et les constructions ont commencé. Et il ne reste que quelques formalités administratives. Vous savez que lorsqu'une entreprise est installée dans la zone, eh bien, tous les produits qui viennent de l'extérieur sont listés et le ministre des Finances les approuve parce qu'ils sont exonérés totalement quand ils entrent sur le territoire national. Ce sont ces quelques petites formalités administratives qui sont en train d'être faites pour permettre aux autres aussi de faire venir les matériaux ou les matériels. Tout ce qui entre dans la zone économique spéciale, sous forme de machines, sous forme de matériel, est exonéré à 100% des frais des douanes. Et c'est donc ça la spécificité de la zone, ce qui fait que les produits qui sont issus de la zone sont plus compétitifs sur le marché parce que le coût de production est moindre étant donné qu'il n'est pas surchargé par une taxation supérieure. Donc on peut rassurer tous les auditeurs qu'on attendra plus 5 ans, on attendra plus 10 ans pour les restes d'entreprises. Mais je crois 2024, 2025, 2026, lorsque les gens se rendront à Maluku, ils se souviendront de cette émission que nous avons tenue à la radio Okapi.
Bien, alors vous avez dit que c'est l'occasion, c'est l'opportunité qui s'offre aux entrepreneurs congolais qui peuvent aussi avoir des marchés dans la sous-traitance.
Oui, c'est l'occasion, pas seulement dans la sous-traitance, mais également dans l'installation à l'intérieur de la zone. Vous savez que nous avons une agence qu'on appelle AZES, Agence des zones économiques spéciales, qui aujourd'hui fait office d'aménageur de la zone pilote de Maluku. C'est elle qui accorde les espaces à l'intérieur de la zone. Donc s'il y a un entrepreneur congolais qui a besoin d'un hectare, de deux hectares pour y organiser son activité, eh bien qu'il contacte l'Agence des zones économiques spéciales, qui a un directeur général, qui a un président de conseil d'administration, qui a un comité de gestion, et qui a la responsabilité, évidemment, d'accorder des espaces à l'intérieur de cette zone, mais également de réguler toute l'activité de la zone. En dehors de celle-ci, il y a des zones qui sont aussi faites par des privés. Donc il n'y a pas que l'État qui peut lui-même organiser une zone économique spéciale. Un privé aussi peut organiser sa zone. À ce moment-là, l'Agence des zones économiques spéciales ne sera que là pour le suivi, la régulation et la conformité aux lois et règlements de la République. Donc l'appel est vraiment lancé à tous les opérateurs congolais pour dire voici l'opportunité que vous offre le président de la République parce qu'il veut la densification du tissu industriel sur l'ensemble du territoire national et ainsi aider à créer des millionnaires congolais qui doivent saisir à la fois les marchés intérieurs, à la fois les marchés régionaux et à la fois les marchés internationaux, tels que je l'ai dit ici. Et on ne sera pas millionnaire en allant faire le commerce pour enrichir les autres. On sera plutôt millionnaire en les faisant, en transformant nos produits locaux. Le président Obasanjo l'a fait au Nigeria et aujourd'hui, vous avez des grands champions au Nigeria qui se sont servis de cette politique du président Obasanjo pour créer la richesse au niveau de ces pays-là. C'est aussi ici l'opportunité pour dire, le président Félix Tshisekedi donne l'opportunité aux Congolais de se saisir de ce vaste projet qui est piloté au niveau du ministère de l'Industrie pour finalement faire de la RDC un pays producteur, un pays exportateur, et ainsi nous aller petit à petit vers l'indépendance économique en réduisant la facture lourde d'importation, comme je l'ai dit ici bien dit, qui pèse sur notre économie congolaise.
Bien, et en plus, ça va créer, générer des emplois, créer des emplois.
Beaucoup d'emplois. Je vous l'ai dit, lorsque vous voyez le secteur agricole, je prends l'exemple de Bandundu, où nous allons lancer la production de toutes ces huiles palmistes, raffinées, biodiesel, savon. Ça permet d'encadrer près de 3000 producteurs locaux. C'est-à-dire, au-delà de l'usine qui, elle, peut employer 300 ou 400 personnes, mais à côté de l'usine, comme on doit collecter les produits qui sont produits, si vous permettez la tautologie, par les paysans, ça fait que nous avons 3000 paysans locaux qui vont dépendre de ces projets et qui, par le fait même, vont aider à scolariser les enfants, à les envoyer dans les universités, à élaborer des programmes de construire leurs bâtiments. Et donc, c'est comme ça que le développement se fait, par des effets multiplicateurs qui sont créés par une unité économique ou une unité industrielle. Donc, que les gens accompagnent le gouvernement dans ce vaste chantier. Il est vrai que les Congolais, nous sommes toujours habitués à être sceptiques devant tous les projets du gouvernement, mais je crois qu'avec la production des Maloukou, les sceptiques ont appris petit à petit à comprendre qu'avec la volonté et la détermination doublée d'une planification, on peut arriver à réaliser des miracles dans ce pays de Lumumba.
Bien, on va terminer avec la question de... On va terminer avec un auditeur de Kisangani, Roméo, bonjour.
Bonjour, Jadine, bonjour.
Quelle est votre question, Roméo?
Oui, j'aimerais juste demander à notre ministre de l'Industrie, parce que celui qui est expert à la matière, si dans le monde on a déjà pensé à créer une torche à obscurité.
C'est quoi une torche à obscurité?
C'est juste une idée qui me vient à tête. Pendant la journée, tu peux avoir une torche et tu allumes et ça donne l'obscurité.
Pendant la journée, une torche qui donne l'obscurité. Bon. Merci d'avoir appelé. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, bon, je ne sais pas si c'est un sophiste qui appelle de Kisangani, mais je voudrais simplement vous dire que, évidemment, à Kisangani, nous avons plutôt un projet de la relance de la Sotexki,
oui,
la société textile de Kisangani, pour laquelle nous avons présenté un projet de 17 500 000 dollars au gouvernement. Il a été adopté. Le ministère des Finances vient de décaisser la première tranche pour la relance de la société textile de Kisangani, avec bien évidemment la relance également de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Nous pensons que ces deux projets-là vont rencontrer les besoins de la population et in fine, on va, tout en respectant les règles de l'OMC, petit à petit nous cheminer vers la limitation des importations des produits textiles, parce que les statistiques que j'ai, c'est que nous importons pour près de 500 millions de dollars chaque année pour les produits textiles. Et donc, avec la relance de la Sotexki à Kisangani, ça va nous permettre de conserver ces sommes colossales dans l'économie congolaise, créer de l'emploi pour les Boyomaises et les Boyomais, et je crois que l'année 2024 sera révélatrice pour la relance effective de la société textile de Kisangani. C'est plutôt de ça qu'il faut parler, au lieu de la torche à obscurité qu'a soulevé notre ami que je salue à Kisangani.
Bien, merci Monsieur le Ministre Julien Paluku Kaungea d'avoir participé, d'avoir accepté notre invitation pour participer dans cette émission Okapi Service qui s'intéresse à la production dans la zone économique spéciale de Maloukou. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien. Merci de nous avoir suivis. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde. Tati Mapuko a assuré la coordination et la réalisation. Jody Daniel Kachama au micro. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. À la prochaine.